Chapitre 9. Navire et serpent. Le tatouage était grossier, exécuté à la va-vite et exclusivement à l'encre bleue. Mais c'était tout de même à son image que le garçon était marqué. Elle le regarda, épouvantée. « C'est ma faute, » dit-elle. « Sans moi, rien ne te serait arrivé. » « C'est vrai, » répondit-il d'un ton las. « Mais ce n'est pas ta faute pour autant. » Et il se détourna pour s'asseoir lourdement sur le pont. Se doutait-il seulement de la douleur que lui causaient ces mots? Elle tenta de partager ses émotions, mais le jeune adolescent qui vibrait de détresse la veille était aujourd'hui parfaitement immobile. Il appuya sa tête contre le bastingage, inspira profondément le vent pur qui balayait les ponts de la vive nef et le relâcha dans un soupir. L'homme de bar s'efforçait de ramener Vivacia dans le chenal principal. Avec une malice presque indolente, elle s'y opposa en se faisant toujours plus lourde à manœuvrer. Ça, c'était pour Kyle Havre, qui croyait pouvoir la plier à sa volonté. « Je ne sais pas quoi te dire, » avoua Yéma à mi-voix. « Quand je pense à toi, j'éprouve de la honte, comme si je t'avais trahi en m'enfuyant. D'un autre côté, quand je songe à moi-même, je ressens de la déception, car j'ai failli réussir à retrouver ma liberté. Je ne veux pas t'abandonner, mais je ne tiens pas non plus à rester enfermé ici. » Il secoua la tête, puis se radossa à la lisse. Il était couvert de crasse. Ses vêtements étaient en lambeaux, et Torg, en l'amenant à Vivacia, n'avait pas ôté les chaînes qui lui entravaient les pieds et les poignets. Dos à elle, le regard levé vers les voiles, Yéma poursuivit. « J'ai parfois l'impression d'être deux individus en un, dont chacun aspire à une existence différente de l'autre. Ou plus exactement, quand je me joins à toi, je ne suis pas le même que quand je suis seul. Lorsque nous sommes ensemble, je perds quelque chose. J'ignore quel nom lui donner. Ma capacité à n'être que moi-même, peut-être ?» Une vague angoisse s'empara de Vivacia. Les réflexions de Yéma se rapprochaient trop de ce qu'elle comptait lui dire. Elle avait quitté le port de Jamelia la veille au matin, mais Torg avait attendu le lendemain pour lui amener le jeune garçon et elle avait observé pour la première fois ce qu'on lui avait infligé. Son plus grand choc avait été de voir le dessin grossier à l'encre bleue sur sa joue. Plus rien ne le désignait désormais comme matelot et encore moins comme le fils du capitaine. Il ressemblait à un esclave. Pourtant, malgré tous ses malheurs, il conservait apparemment son calme. Comme en réponse à ses pensées, il déclara « Je n'ai plus de place pour les émotions. Par ton biais, je suis tous les esclaves à la fois. Et quand je me laisse aller à partager ce que tu ressens, j'ai l'impression que je vais devenir fou. Je m'en abstiens donc et je m'efforce de ne rien éprouver du tout. » « C'est vrai, ces émotions sont trop puissantes, » dit Vivacia à voix basse. « La souffrance de ces hommes et de ces femmes est trop grande, et elle s'empare de moi au point que je ne peux plus m'en échapper. » Elle s'interrompit, puis reprit d'un ton hésitant. « C'était encore pire quand tu n'étais pas là. Ton absence me donnait le sentiment d'être à la dérive. Je pense que tu es l'encre qui me permet de conserver mon identité. C'est pourquoi, je crois, une vive nef a besoin d'un membre de sa famille à son bord. » Yéma ne répondit pas, mais comme il ne bougeait pas, elle espéra qu'il l'écoutait. « Je puise en toi, » fit-elle. « Je prends tout sans rien te donner en échange. » Il remua légèrement et répondit d'un ton étrangement monocorde. « Tu m'as donné de la force et plus d'une fois. » « Mais seulement dans le but de te conserver auprès de moi. Je te raffermis pour te conserver, afin de savoir toujours qui je suis. » Elle rassembla son courage. « Yéma, qu'étais-je avant de devenir une vive nef ?» Il agita ses chaînes et frotta distraitement ses chevilles irritées. Il ne paraissait pas avoir conscience de l'importance de la question. « Un arbre, je suppose, ou plutôt plusieurs arbres, si le bois sorcier grandit comme les autres essences. Pourquoi me demandes-tu ça ?
Pendant ton absence, il m'a semblé me rappeler les détails d'une autre vie, comme le fait de sentir le vent dans mon visage, mais en plus puissant, me déplacer très vite de mon propre chef. Je me souvenais presque d'avoir été quelqu'un qui n'avait rien à voir avec les Vestrites, quelqu'un qui n'avait aucun rapport avec ce que je connais de ma vie présente. C'était très effrayant, mais...
Elle s'interrompit au bord d'une pensée qu'elle rejetait. Après un long silence, elle reprit.
« Je crois que j'aimais cette existence alors. Aujourd'hui, je pense que j'ai fait de ces rêves que les hommes appellent cauchemars. Mais une vive nef ne dort pas, et je ne suis donc pas parvenu à m'en extraire complètement. »
« Les serpents du port, Yémin !»
Elle parlait à présent d'un ton pressant, à mi-voix, en s'efforçant de tout lui faire comprendre d'un seul coup.
« Personne d'autre que moi ne les a vus. Tout le monde reconnaît maintenant l'existence du blanc qui me suit. Mais il y en avait d'autres, beaucoup d'autres, dans la vase du fond du port. J'ai bien essayé d'avertir Gantry, et il m'a répondu de ne pas leur prêter attention. Mais c'était impossible, parce que, je ne sais comment, c'était eux les responsables des rêves que... Yémin ? »
Il s'était assoupi sous le chaud soleil, réaction prévisible après les épreuves qu'il avait endurées. Vivacia n'en fut pas moins déçue. Elle avait besoin de partager ce qu'elle savait, sans quoi elle avait l'impression qu'elle allait sombrer dans la folie, mais nul ne semblait désirer l'écouter. Malgré le retour de Yémin à bord, elle se sentait toujours aussi seule, et elle se demandait s'il ne restait pas sur son camp à soi. Elle ne pouvait le lui reprocher, mais elle était incapable de ne pas lui en vouloir. Elle éprouvait aussi une colère sans objet défini. La famille Vestrite avait fait d'elle ce qu'elle était, suscité des besoins en elle. Mais depuis son éveil, elle n'avait pas connu une seule journée en compagnie de quelqu'un qui resta auprès d'elle sans contrainte. Et Kyle, qui espérait la voir naviguer docilement et avec entrain, alors que son ventre était plein de misère et qu'elle n'avait pas de compagnon. Ce n'était pas juste. Le bruit de pas rapides sur le pont rompit le fil de ses pensées.
« Yémin !»
fit-elle d'un ton pressant.
« Ton père vient par ici !»«
Tu es loin du chenal. Tu n'es donc pas capable de tenir un cap ?»
aboya Kyle à l'adresse de Confrette. L'intéressé le regarda dessous ses paupières lourdes.
« Non, commandant !»
répondit-il d'un ton égal, comme s'il ne faisait pas preuve d'insolence. « Je ne peux pas. Chaque fois que je redresse la barre, le navire s'écarte de la route. »«
N'accuse pas le navire. J'en ai assez d'entendre tous les hommes d'équipage s'en prendre à lui pour dissimuler leur incompétence. »«
Bien, commandant. »
Confrette tourna les yeux vers l'étrave et orienta de nouveau la barre pour corriger le cap. La Vivacia réagit aussi lentement que si elle traînait une ancre flottante. Comme en réponse à cette idée, Kyle vit un serpent apparaître dans son sillage et battre l'eau, et il eut l'impression que le regard de l'horrible bête se posait droit sur lui. Il sentit le brasier dormant de sa colère commencer à s'éveiller. C'en était trop. Cette fois, c'en était vraiment trop. Il n'avait rien d'une femmelette. Il était capable de faire front à tous les coups du sort, tant défavorables, cargaisons délicates et même simple malchance. Rien de tout cela ne lui faisait perdre son calme. Mais là, c'était différent. Il se heurtait à l'opposition brute de ceux-là même pour lesquels il se tuait au travail. Il ignorait combien de temps encore il supporterait cette attitude. Pourtant, ça le savait. Il avait fait des efforts avec le petit. Qu'est-ce que son fils aurait pu vouloir de plus ? Il lui avait offert ce satané bateau à la simple condition qu'il devienne un homme. Eh bien non, ce morveux s'était sauvé et il s'était fait tatouer comme un esclave à Jamelia. Alors Kyle avait baissé les bras. Il l'avait ramené à bord et remis à l'entière disposition de la vive nef. Ne répétait-elle pas sur tous les tons qu'elle avait besoin de lui ? Il avait fait conduire le gosse sur le gaillard d'avant, ce matin même, dès qu'ils étaient sortis du port, et Vivacia aurait dû être satisfaite. Eh bien non. Encore une fois, elle se vautrait dans l'eau comme une truie, penchait d'un côté puis de l'autre et s'écartait constamment du meilleur chenal. À naviguer n'importe comment,
elle l'humiliait autant que son propre fils. Tout aurait pu être si simple pourtant. Il se rendait à Jamélia, embarquait une cargaison d'esclaves, les emmenait en Chalcède et les vendait avantageusement pour le plus grand profit de la famille et l'orgueil de son nom. Il tenait bien son équipage et entretenait le navire. En toute justice, il aurait dû naviguer parfaitement. Quant à Yémin, il aurait dû devenir un solide gaillard, apte à prendre sa suite, un fils fier de saisir un jour la barre de sa propre vive nef. Mais non, à 14 ans, il était déjà défiguré par 2 tatouages d'esclaves, dont le plus grand était dû à sa propre réaction impulsive, sous le coup de la colère, à une suggestion facétieuse de Torg. Ça, qu'il regrettait que Gantry ne l'ait pas accompagné ce jour-là au lieu du lieutenant. Le second aurait su le dissuader, lui, alors que Torg avait obéi sur le champ, au grand remords de Kyle. S'il devait recommencer... Un mouvement sur tribord attira son attention. Toujours ce fichu serpent qui fendait l'eau, l'œil rivé sur lui. D'un blanc encore plus répugnant que le ventre d'un crapaud, il suivait le navire. Il n'avait pas l'air très dangereux. Lors des brefs coups d'œil qu'il avait pu lui jeter, Kyle avait eu l'impression d'une créature vieille et grasse, mais elle inquiétait l'équipage et la vive nef, et lui-même s'apercevait soudain qu'il n'appréciait pas non plus sa présence. Elle soutenait son regard, contrairement aux animaux habituels, et il avait l'impression de se trouver face à un homme qui cherchait à lire ses pensées. Il quitta la barre pour s'éloigner d'elle et se dirigea vers la proue à grands pas, la tête toujours pleine de réflexions troublées. Le bateau puait bien plus que ne l'avait promis Torg. Il puait plus que des latrines, il puait comme un charnier. On avait déjà passé 3 morts par-dessus bord, dont une femme qui s'était apparemment suicidée. On l'avait trouvée inerte au milieu de ses chaînes après qu'elle s'était étouffée en se bourrant la bouche et la gorge avec des lambeaux de tissu arrachés à ses vêtements. Comment pouvait-on s'infliger un traitement aussi stupide? Pourtant, plusieurs hommes en avaient été ébranlés, même si aucun ne s'en était ouvert directement à lui. Il jeta un coup d'œil vers tribord. Ce fichu serpent était toujours là, progressant à la même allure que le navire, sans le quitter des yeux. Kyle détourna le regard. Le monstre lui faisait penser, sans qu'il sût trop pourquoi, au tatouage de la joue du gosse, peut-être parce qu'il ne pouvait pas plus échapper à l'un qu'à l'autre. Il regrettait son geste envers Yémin, mais il était impossible de revenir en arrière. Il savait aussi qu'on ne le lui pardonnerait jamais. Inutile donc de présenter des excuses, que ce fût au gamin ou à sa mère. Il lui en voudrait jusqu'à la fin de ses jours. Pourtant, il ne lui avait pas vraiment fait de mal. Il ne lui avait pas fait crever les yeux ni couper une main. Il l'avait simplement fait tatouer. Nombre de marins portaient ainsi sur la peau la représentation de leur navire ou de sa figure de proue. Pas sur le visage, certes, mais cela revenait au même. Cela n'empêcherait pas Kefria de piquer une crise quand elle verrait Yémin. Lui-même voyait l'expression horrifiée de sa femme chaque fois que son regard tombait sur son fils. Ainsi, même le plaisir de rentrer chez lui lui était désormais interdit. Il pourrait bien rapporter tout l'or du monde, sa famille ne verrait que le tatouage sur la figure du gosse. À côté du navire, le serpent dressa la tête hors de l'eau et le regarda d'un air entendu. Kyle s'aperçut que dans sa colère, il avait parcouru le bateau sur toute sa longueur jusqu'au gaillard d'avant. Yémin y était assis, recroquevillé sur lui-même. Il se sentit humilié à la vue de la créature abjecte qu'était son fils aîné. Ça, son héritier. Le garçon qu'il avait imaginé prenant un jour la barre à sa place. Quel dommage que Malta fût une fille. Elle aurait fait un bien meilleur héritier que Yémin. Un brusque éclair de fureur le parcourut, et il se sentit les idées plus claires. Tout était de la faute de Yémin. Il s'en rendait compte à présent. Il l'avait amené à bord pour satisfaire la vive nef et l'obliger à naviguer correctement, et ce prétraillon n'avait réussi qu'à en faire une garce rétive. Eh bien, si elle refusait de se comporter comme il fallait malgré la présence du morveux à bord,
il n'avait aucune raison de supporter davantage ce petit pleurnichard. Deux enjambées, et saisissant Yémin par le col de sa chemise, il le hissa à sa hauteur.
« Je devrais te balancer à ce foutu serpent »
cria-t-il au garçon stupéfait dont les pieds ne touchaient même plus le pont. Yémin leva vers son père un regard horrifié, mais il serra les dents et ne dit rien. Kai leva une main, et voyant que le garçon ne tressaillait même pas, il lui asséna un revers avec toute la force dont il était capable. Il sentit une douleur aiguë dans les doigts quand ils frappèrent le visage tatoué du garçon, qui fut projeté en arrière dans un cliquettement de chaînes et retomba durement sur les planches. Il n'essaya pas de se relever, défiant son père par son absence même de résistance.
« Espèce de petit salaud ! Espèce de petit salaud !»
hurla Kyle, et il se précipita sur le garçon avec l'intention de le jeter par-dessus bord et de le laisser couler. C'était non seulement la solution parfaite, mais aussi le seul geste digne d'un homme. Personne ne lui ferait de reproche. Ce morveux n'était qu'un poids mort, une gêne, et il portait malheur en plus. Il fallait qu'il se débarrasse de ce géniard doucereux avant qu'il ne l'humilie davantage. Près du navire, une tête blanche comme la mort se dressa soudain hors de l'eau, les mâchoires béantes. Kyle resta paralysé devant la gueule écarlate et les yeux rouges et pleins d'espoir. La créature était très grande, beaucoup plus que Kyle ne l'avait imaginé à partir des brefs aperçus qu'il en avait eus, et elle parvenait sans effort à rester à la hauteur de la vivacia malgré toute la longueur émergée de son corps. Elle attendait son repas. Le nœud avait suivi sa pourvoyeuse jusque dans un de ses lieux de repos, comme Shriver venait de s'en rendre compte. Lorsque Malkin fit brusquement une boucle de son corps et changea de cap pour filer à travers le plein, comme s'il chassait une proie. Pourtant, Shriver ne voyait rien qui méritât une telle poursuite.
« Suivons-le !»
trompeta-t-elle à l'intention du reste du nœud, et elle se précipita derrière lui, s'essuréa non loin d'elle. Quelques instants plus tard, elle se rendit compte que les autres ne l'avaient pas écoutée. Ils étaient restés près de la pourvoyeuse, uniquement préoccupés de leur ventre, du plaisir de grandir, de muer et de grandir encore. Elle chassa leur infidélité de ses pensées et redoubla d'efforts pour rattraper Malkin. Elle y parvint, mais seulement parce qu'il s'était arrêté tout à coup dans une attitude de profonde fascination, la gueule béante, les ouïes grandes ouvertes et battantes.
« Qu'y a-t-il ? »
demanda Shriver avant de percevoir la trace infime d'un goût inattendu dans l'eau. Elle était incapable d'en déterminer la nature, mais il évoquait un retour bienvenu et l'accomplissement d'une promesse. Cessuréa la rejoignit, et elle vit ses yeux s'agrandir quand il sentit à son tour la même saveur.
« Qu'est-ce que c'est ? » fit-il.
« C'est celle qui se souvient, » répondit Malkin d'une voix empreinte de révérence.
« Venez, nous devons la trouver. »
Il ne parut pas remarquer que, de son nœud, seuls deux membres l'avaient accompagné. Il ne s'intéressait qu'au goût diffus qui menaçait de s'évanouir avant qu'il ait pu remonter à sa source. Il se remit en route avec une puissance et une vitesse dont Shriver et Cessuréa étaient incapables. Ils le suivirent pourtant avec acharnement, en s'efforçant de repérer l'éclat de ses faux yeux dorés qui apparaissaient par intermittence dans la vase en suspension. La saveur devint de plus en plus forte, presque au point de brouiller tous leurs autres sens. Quand ils rattrapèrent Malkin à nouveau, il se tenait à distance respectueuse d'une pourvoyeuse aux reflets argentés dans le plein ténébreux. Son parfum imprégnait les eaux et sa douceur assasiait les trois nouveaux venus. On y sentait l'espoir et la joie, mais surtout la promesse de souvenirs à partager entre tous, de savoir et de sagesse à la disposition de chacun. Pourtant, Malkin ne s'approchait pas, et ne demandait rien.
« Quelque chose ne va pas !»
trompeta-t-il doucement, le regard profond et pensif. Un léger éclair coloré parcourut son corps puis disparut.
« Ce n'est pas normal. Celle qui se souvient nous ressemble. Toutes les traditions sacrées l'affirment. Mais je ne vois que la pourvoyeuse au ventre d'argent. Pourtant, tous mes sens me disent qu'elle est proche. Je ne comprends pas. »
Intimidés et troublés, ils regardèrent la pourvoyeuse argentée se déplacer lentement devant eux. Elle n'avait qu'un seul suivant, un gros serpent blanc qui ne s'écartait pas d'elle. Il planait tout en haut du plein, la tête dressée dans le manque.
« Il lui parle, »
dit Moulkin, pensant à mi-voix.
« Il lui présente une requête. »« Pour retrouver des souvenirs ?»
demanda Cessuréa, et sa crinière se dressa, frissonnante d'espoir.
« Non !»
Moulkin avait pris soudain un ton incrédule, presque furieux.
« Pour avoir à manger !» Il la supplie seulement de lui donner à manger, de lui donner ce dont elle ne veut pas.
Sa queue fouetta l'air avec tant de brusquerie et de violence qu'elle souleva la vase du fond.
« Ce n'est pas normal !»
s'écria-t-il.
« C'est une illusion, une duperie. Elle dégage le parfum de celle qui se souvient, et pourtant elle n'est pas de notre race. » Et celui-ci lui parle, et pourtant il ne lui parle pas, car elle ne répond pas. Or, il est promis de toute éternité qu'elle répondrait à toutes les suppliques. Ce n'est pas normal. »
On sentait une vaste douleur dans les profondeurs de sa colère. Sa crinière s'évasa, lâchant un nuage suffocant de toxines, et Shriver s'en écarta.
« Moulkin, »
fit-elle d'une voix douce,
« Moulkin, que devons-nous faire ?»«
Je n'en sais rien, »
répondit-il avec amertume.
« Il n'y a rien dans les traditions sacrées, rien dans mes souvenirs effilochés pour me guider. Je ne sais pas. Pour ma part, je vais la suivre, simplement pour essayer de comprendre. »
Il poursuivit plus bas.
« Si vous décidez de retourner auprès du nœud, je ne vous en ferai pas le reproche. Peut-être vous ai-je induit en erreur. Peut-être mes souvenirs ne sont-ils tous que des mensonges nés de mes poisons. »
Sous le coup de la déception, sa crinière retomba soudain, inerte, et sans même regarder si ses deux compagnons le suivaient, il se lança sur les traces de la pourvoyeuse d'argent et de son parasite blanc.
Kyle, lâchez-le !
S'exclama Vivacia. Ce n'était pas un ordre, mais l'expression de sa terreur. Éperdue, elle se pencha en battant des bras pour chasser le serpent blanc.
Va-t'en, immonde créature ! Éloigne-toi de moi ! Tu ne l'auras pas, tu ne l'auras jamais !
Ses mouvements firent danser tout le bâtiment, qui, déséquilibré, se mit à tanguer follement. Ses puissants bras de bois battaient l'air sans autre résultat que de secouer violemment le bateau.
« Va-t'en, va-t'en »
cria-t-elle au serpent, puis
« Yéma, Kyle !»
Mais Kyle continua de traîner son fils vers le bastingage et la créature. Alors Vivacia rejeta la tête en arrière et hurla
« Gantry, au nom de ça, venez ici, Gantry !»
Partout dans le navire, des voix s'élevaient dans un brouhaha assourdissant. Les matelots s'interpellaient pour savoir ce qui se passait, tandis que dans les cales, les esclaves poussaient des cris inarticulés, terrifiés à l'idée de se trouver pris au piège dans le noir, sous la ligne de flottaison, par un accident, un incendie, un naufrage ou une tempête. La peur et la détresse qui régnaient dans la vive nef devinrent soudain palpables, miasmes épais qui empestaient la sueur et les excréments. Il laissa un goût cuivré dans la bouche de Kyle et une pellicule graisseuse de désespoir sur sa peau.
« Arrêtez, arrêtez !»
s'écria-t-il d'une voix rauque sans savoir à qui il s'adressait. Il saisit Yéma par le devant de sa robe en haillons et le secoua violemment, mais ce n'était pas contre le garçon qu'il se battait. Gantry apparut sur le pont, pieds et torse nus, le visage pâle et l'air égaré, visiblement tiré de son sommeil.
« Qu'est-ce qui se passe ? »
demanda-t-il d'une voix tendue. Puis, à la vue de la tête du serpent dressée à hauteur du bastingage, il émit un cri, et, plus près de l'affolement que Kyle ne l'avait jamais vu, il s'empara d'une meule qui traînait sur le pont, la leva à deux mains et la projeta sur le serpent avec une telle force que Kyle entendit ses muscles craquer. La bête évita négligemment le projectile d'un léger écart du cou, puis se renfonça lentement dans l'eau, et seule une perturbation du rythme des vagues indiqua où elle s'était trouvée. Comme au sortir d'un cauchemar, Kyle perdit soudain toute compréhension de ce qu'il était en train de faire. Il regarda l'enfant qu'il tenait dans sa poigne et se demanda quel sort il lui réservait. Ses forces l'abandonnèrent brusquement et il laissa tomber Yéma sur le pont à ses pieds. Respirant à grande goulée, Gantry se tourna vers son commandant.
« Qu'est-ce qui se passe ? »
fit-il d'une voix tendue.
« Qu'est-ce qui l'a mise dans cet état ?»
Haletante, Vivacia poussait des cris aigus de terreur auxquels répondaient les hurlements incohérents des esclaves des cales. Yéma, étendu sur le pont, ne bougeait pas. Gantry s'approcha de lui en deux enjambées, l'examina, puis se tourna vers Kyle avec une expression effarée.
« C'est vous qui avez fait ça ?»
demanda-t-il.
« Mais pourquoi ? Vous l'avez frappé si durement qu'il est inconscient ?»
Kyle ne put que regarder son second en silence, incapable de répondre. Gantry secoua la tête, puis leva les yeux au ciel comme s'il implorait une aide d'en haut.
« Reprends-toi »
ordonna-t-il sèchement à la figure de proue.
« Je vais m'occuper de lui, mais ressaisis-toi, tu mets tout le monde sur les dents. Clément ! Clément ! Il me faut le coffre à pharmacie. Et dis à Torg que je veux la clé de ces foutues chaînes. Du calme, ma jolie. On va reprendre la situation bien en main. Du calme, je t'en prie. Le serpent est parti, et je vais soigner le petit. »
À un matelot qui observait la scène bouche bée, il cria
« Evans, va sous le pont, réveille mon car et dis-leur d'aller tranquilliser les esclaves. Qu'il leur explique qu'il n'y a rien à craindre. »
Kyle entendit Vivacia déclarer à Gantry d'une voix hachée
« J'ai touché le serpent. Je l'ai frappé. Et à cet instant, il m'a reconnu. Mais ce n'était pas moi. »
« Ne t'inquiète pas, ça va aller !»
répondit le second d'un ton obstinément apaisant. Le navire fit une nouvelle embardée quand Vivacia se pencha en avant pour se laver les mains dans la mer. Elle continuait à émettre de petits cris effrayés. Faisant un effort sur lui-même, Kyle baissa les yeux sur son fils. Yéma était bel et bien assommé. Il massa les phalanges gonflées de sa main droite et prit alors conscience de la violence avec laquelle il avait frappé le garçon. Une violence suffisante pour lui déchausser des dents, voire lui briser un ou plusieurs os du visage. Incroyable. Il avait été sur le point de jeter le gosse au serpent. Son propre fils. Il savait qu'il avait giflé Yéma. Il s'en souvenait parfaitement. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y avait poussé ?
« Il va bien !» dit-il d'un ton brusque à Gantry. « Il joue sans doute la comédie, tout simplement. »« C'est très probable, en effet !»
répondit le second d'un ton caustique. Il parut vouloir ajouter un commentaire, puis il se ravisa, resta un instant silencieux et déclara enfin
« Capitaine, nous devrions fabriquer une arme, comme une pique ou une lance, je ne sais pas, pour nous défendre contre ce monstre. »« Ça ne servirait vraisemblablement qu'à l'enrager, »
répondit Kyle, mal à l'aise.
« Les serpents suivent toujours les transports d'esclaves, et jamais aucun n'a attaqué le navire lui-même. Celui-ci se satisfera des cadavres d'esclaves que nous jetterons par-dessus bord. »
Gantry le regarda d'un air abasourdi, comme s'il n'était pas sûr d'avoir bien entendu.
« Et si nous n'en jetons pas ?»
demanda-t-il en articulant avec soin.
« Si nous sommes aussi doués et efficaces que vous le prétendez, et que nous ne tuions pas la moitié de la cargaison en route, Si le serpent commence à crever de faim, et si Vivacia ne supporte pas sa présence tout simplement, est-ce qu'il ne faudrait pas se débarrasser de lui dans ces conditions ?
Un peu tardivement, il s'aperçut que les marins s'étaient attroupés sur le pont pour écouter l'échange entre le second et le capitaine.
« Retournez au travail !»
leur cria-t-il sèchement.
« Si quelqu'un n'a rien à faire, qu'il vienne me le dire, je lui trouverai une occupation !»
Les hommes se dispersèrent et il reporta son attention sur Yéma.
« Il m'a l'air juste sonné !»
marmonna-t-il.
« Clément !»
brailla-t-il à nouveau à l'instant où le jeune matelot apparaissait avec un trousseau de clés à la main et le coffre à pharmacie sous le bras. Yéma commençait à se réveiller et Gantry l'aida à se redresser. Assis sur le pont, prenant appui sur ses mains derrière lui, le garçon balaya le navire d'un regard vague pendant que le second lui ôtait ses chaînes.
« C'est de la démence !»
fit Gantry d'un ton furieux en examinant d'un œil noir les chevilles éraflées et suintantes. Puis il lança par-dessus son épaule
« Clément, tire un seau d'eau de mer !»
Il s'adressa ensuite à Yéma.
« Nettoie bien ses plaies à l'eau salée et fais-toi un pansement. Rien de tel pour soigner ça. Ça te laisse une belle cicatrice bien solide, tu peux me croire. J'en ai eu ma part. »
Il fronça le nez d'un air dégoûté.
« Et lave-toi par la même occasion. Les enchaînés dans les cales ne sentent pas bon, mais ils ont une excuse, pas toi. »
Il leva les yeux vers Kyle, toujours debout près d'eux, soutint le regard de son capitaine et poussa l'audace jusqu'à secouer la tête en signe de désapprobation. Kyle serra les dents mais ne dit mot. Gantry se leva et s'approcha de Vivacia. Elle tordait le cou en arrière pour voir ce qui se passait sur le pont, les yeux démesurément agrandis et les mains crispées sur la poitrine.
« Bon, » fit le second d'un ton uni, « maintenant, ça suffit. Dis-moi exactement ce que tu veux pour te conduire correctement. »
Prise ainsi au déboté, Vivacia esquissa un mouvement de recul, mais elle se tut.
« Alors ?»
reprit Gantry, et l'agacement perçait dans sa voix.
« Tu poses tout le monde à bout !» « Au nom de ça, qu'est-ce qu'il te faut pour être heureuse ? De la musique, de la compagnie, quoi ?»«
Il me faut... »
Elle s'interrompit et parut perdre le fil de sa pensée.
« Je l'ai touché, Gantry. Je l'ai touché et il m'a reconnue. Il a dit que je n'étais pas Vivacia et que je n'étais pas une Vestrite. Il a dit que j'étais l'un d'eux. »
« Voilà quel délire !» songea Kyle, furieux. « Elle raconte n'importe quoi, comme un idiot de village !»«
Vivacia !»
fit Gantry d'un ton sévère.
« Les serpents ne parlent pas. Il n'a rien dit, il t'a seulement effrayé. Nous avons tous eu peur, mais c'est fini. Et personne n'est gravement blessé. Mais tu aurais pu nous faire du mal à t'agiter comme une folle et... »
Elle ne l'écoutait pas. Elle plissa son front de bois, fronça les sourcils, puis parut se rappeler sa première question.
« Je veux que tout redevienne comme avant. »
Ce n'était pas un souhait, mais une supplique désespérée.
« Comme avant quoi ?»
demanda Gantry à bout de ressources. Il avait déjà perdu la partie. Kyle le savait. À quoi bon s'enquérir de ce que voulait la vive nef ? Elle voulait toujours l'impossible. Elle était gâtée, voilà tout. C'était une femelle gâtée qui avait une idée disproportionnée de sa propre importance, et chercher à lui faire plaisir n'était pas la bonne méthode. Plus Gantry la cajolait, plus elle ferait tourner ceux qui l'entouraient en bourrique. C'était dans la nature des femmes. Pourquoi n'avait-on pas sculpté un homme à sa place? Un homme aurait su entendre raison.
« Comme avant, Kyle !»
dit lentement Vivacia. Elle jeta un regard noir à l'intéressé.
« Je veux qu'Efron Vestrite reprenne la barre, et qu'Althea revienne à bord et Brashen aussi. »
Elle se cacha le visage dans les mains et se détourna.
« Je veux savoir qui je suis à nouveau. »
Sa voix tremblait comme celle d'un enfant.
« Je ne peux pas les faire revenir. Personne ne peut les faire revenir. »
Gantry secoua la tête.
Allons, Vivacia. Nous faisons ce que nous pouvons. Yémin est débarrassé de ses chaînes, mais je ne peux pas l'obliger à être heureux. Je ne peux pas obliger les esclaves à être heureux. Je fais ce que je peux.
Il avait un ton presque implorant. Vivacia courba le cou.
Je n'en peux plus,
dit-elle. Et il y avait des larmes dans sa voix étouffée.
Je sens tout ce qui se passe à mon bord, tu sais. Je sens tout.
Foutaise !
Gronda Kyle. Il en avait assez. Il domina l'horreur que lui inspirait son déchaînement de fureur. Ouais, il s'était mis en colère, mais ça était témoin que sa patience avait été mise à rude épreuve. Il était temps de faire savoir à tout un chacun qu'il ne supporterait plus la moindre incartade. Il s'approcha du bastingage, près de son second.
Yantré, ne l'encouragez pas à pleurnicher. Ne l'incitez pas à jouer les enfants gâtés.
Il regarda Vivacia dans les yeux.
Vivnef, tu vas naviguer, un point c'est tout. Comme il faut ou comme un radeau en rondin, mais tu vas naviguer. Je me fous de tes états d'âme. Nous avons un travail à effectuer, et nous allons le mener à bien. Et si ça ne te plaît pas d'avoir des cales pleines d'esclaves, eh bien avance plus vite. Plus tôt nous arriverons en Calcède, plus tôt nous en serons débarrassés. Quant à Yémin, il se complaît dans le malheur. Il a refusé de se comporter comme mon fils. Il a refusé son poste de mousse à bord. Il s'est mis lui-même dans la peau d'un esclave, et c'est ce qu'il est maintenant. C'est ton image qu'il porte sur la figure. Il est à toi. Et tu peux en faire ce que tu veux, je n'interviendrai pas. S'il ne te convient pas, tu peux bien le jeter par-dessus bord, ça m'est parfaitement égal.
Kyle se tut, le souffle court. Tous les yeux étaient braqués sur lui, et il n'aimait pas l'expression de Gantry. Le second le regardait comme s'il était fou, avec un profond malaise. Kyle se rembrunit encore.
Gantry! « Allez prendre votre quart !»
ordonna-t-il d'un ton sec. Il leva les yeux vers la voilure.
« Faites déferler toute la toile, et que les hommes se remuent. Faites-moi avancer ce sabot. Si une mouette pète près de nous, je veux qu'elle gonfle les voiles. »
Là-dessus, il regagna sa cabine à grands pas. Sur les conseils d'un capitaine expérimenté de transport d'esclaves, il avait acheté de l'encens à Jamelia. Il allait en faire brûler pour échapper un moment à la puanteur des esclaves, pour échapper un moment à tous les incapables qui l'entouraient. La paix était presque entièrement revenue sur le navire. Le calme absolu ne régnait jamais à bord d'un transport d'esclaves. Des cris montaient toujours des cales pour demander de l'eau, de l'air. Des voix suppliantes s'élevaient pour implorer de voir simplement la lumière du jour. Des bagarres éclataient entre les esclaves. Il était étonnant de constater les blessures que pouvaient s'infliger des hommes enchaînés. La promiscuité, la puanteur, les maigres rations de pain et d'eau les poussaient à s'attaquer les uns aux autres comme des rats enfermés dans une barrique. Yémin songeait que leur situation, à Vivacia et lui, n'étaient guère différentes. À leur façon, ils partageaient le sort des esclaves attachés coude à coude dans les cales, en ce qu'ils ne disposaient d'aucun espace pour se couper l'un de l'autre, pas même dans leurs pensées ni dans leurs rêves. Aucune amitié ne pouvait survivre à un tel confinement, surtout si les remords venaient subrepticement se glisser entre eux. Yémin avait abandonné Vivacia, l'avait laissée seule face à son destin. Quant à la Vivnef, sa première réaction en voyant son visage tatoué avait été de murmurer « C'est ma faute. Sans moi, rien ne te serait arrivé. »« C'est vrai, » avait-il répondu. « Mais ce n'est pas ta faute pour autant. » À l'expression bouleversée qu'elle avait eue, il avait compris que ses paroles lui avaient fait mal. Mais il était trop épuisé et trop accablé par son propre malheur pour essayer de les adoucir par d'autres paroles probablement inutiles. Cela s'était passé plusieurs heures plus tôt, avant que son père se jette sur lui dans une explosion de rage. La Vivnef n'avait plus prononcé le moindre mot depuis le départ de Gantry. Yémin s'était pelotonné dans l'angle de sa proue en se demandant quelle folie s'était emparée de son père. Allait-il de nouveau s'en prendre à lui sans crier gare? Il se sentait trop abattu pour parler. Il ignorait pourquoi Vivacia se taisait elle aussi, mais il était presque soulagé de son silence. Quand elle parla enfin, ce fut pour demander tout banalement « Qu'allons-nous faire ?» La futilité de la question l'agaça. Il déplia le linge humide pour le rafraîchir, le replia et l'appliqua de nouveau sur sa pommette enflée. Puis, sans réfléchir, il répondit d'un ton mordant « Ce que nous allons faire? Pourquoi t'adresser à moi? Je n'ai plus le libre choix de mes actes. Donne-moi plutôt tes ordres, puisque je suis ton esclave. »
« Je n'ai pas d'esclave, »
répliqua Vivacia avec une raideur glaciale. Elle poursuivit d'une voix où l'on sentait monter l'indignation.
« Si tu tiens à faire plaisir à ton père en te prenant pour un esclave, dis que c'est à lui que tu appartiens, pas à moi. »
La colère longtemps contenue de Yémin trouva sa cible.
« Dis plutôt que mon père tient à te faire plaisir sans se préoccuper de mon avis, sans toi et ta nature anormale. » Il ne m'aurait jamais forcé à servir à ton bord.
Ma nature anormale? Et d'où vient-elle, cette nature anormale? Je ne l'ai pas voulu. Je suis ce que ta famille m'a faite. Tu parlais de libre choix tout à l'heure, en prétendant ne plus en avoir, mais je suis plus esclave que tu ne le seras jamais, même si tu devais te faire tatouer toute la figure.
Yémin poussa un grognement. Il n'en croyait pas ses oreilles. Sa colère grandit encore pour s'accorder à celle de Vivacia.
« Toi, une esclave, fais-moi voir tes tatouages au visage, les fers à tes poignets. Tu as beau jeu de parler d'asservissement. Vivacia, je ne joue pas la comédie. Cette marque que je porte sur la joue, je la garderai toute ma vie. »
Et avec un effort, il termina.
« Je suis un esclave. Tiens donc !»
La voix de Vivacia était dure.
« Naguère, tu te prétendais prêtre et tu affirmais que nul n'y pourrait rien changer. Mais c'était avant ta fuite, naturellement. Depuis qu'on t'a ramené pieds et poings liés, tu ne cesses de démentir tes propos. Je te croyais plus courageux, Yémin Vestrit, plus résolu à façonner toi-même ta propre vie. »
L'indignation s'empara de lui. Il se redressa pour regarder la figure de proue par-dessus son épaule.
« Que sais-tu du courage, Vivnef ? Que sais-tu de ce qui est exclusivement humain? Quoi de plus dégradant que de se voir soumis à quelqu'un qui prend les décisions à ta place, qui t'affirme que tu es un objet qui lui appartient? Que de ne plus avoir ton mot à dire sur tes propres déplacements, sur tes propres actes? Comment conserver sa dignité, sa foi, sa confiance dans le lendemain, dans ces conditions? Tu me parles de courage. »
Que sais-je du courage? Que sais-je de ces choses-là?
Le regard qu'elle jeta à Yémin était effrayant.
« Que sais-je, sinon que je suis un objet, une propriété ?»
Ses yeux flamboyèrent.
« Comment oses-tu proférer de telles obscénités devant moi ?»
Yémin resta bouche bée, sidéré. Puis il tenta de se reprendre.
« Ce n'est pas pareil. C'est plus difficile pour moi. Je suis né humain et... « Silence !»
Le mot claqua comme un coup de fouet.
« Je n'ai pas demandé qu'on te tatoue le visage, mais ta famille a passé 3 générations à graver sa marque sur mon âme, oui, mon âme, l'objet que je suis à l'audace d'en revendiquer une. »
Elle toisa Yémin, s'apprêtant à poursuivre, puis elle retint soudain sa respiration. Une expression étrange passa sur ses traits, si bien que le garçon eut l'impression fugitive de se trouver face à une inconnue.
« Nous nous disputons, »
fit-elle d'un ton étonné.
« Nous ne sommes pas d'accord. »
Elle hocha la tête d'un air presque satisfait.
« Si je puis m'opposer à toi, c'est que je ne suis pas toi. »
« Naturellement. »
L'espace d'un instant, Yémin resta interdit. Pourquoi tant de surprise devant une telle évidence? Puis son irritation reprit le dessus.
Je ne suis pas toi et tu n'es pas moi. Nous sommes chacun un être unique, avec des désirs et des besoins uniques. Si tu ne t'en étais pas encore aperçu, il est grand temps que tu en prennes conscience. Il faut que tu commences à être toi-même, Vivacia. Que tu découvres tes propres ambitions, tes propres envies, tes propres idées.
As-tu jamais songé à ce dont tu pourrais vraiment avoir besoin en dehors de me posséder ?
Avec une soudaineté qui le laissa pantois, Vivacia se coupa de lui. Elle détourna le regard, certes, mais la séparation fut beaucoup plus profonde. Yéma eut un hoquet, comme s'il avait reçu une douche d'eau glacée, puis il fut pris de frissons et la tête lui tourna. S'il n'avait pas été assis, il aurait été bien près de tomber. Se recroquevillant contre le vent brusquement devenu plus froid, il avoua abasourdi.
« Je ne me rendais pas compte de l'énergie que je mettais à me tenir à l'écart de toi. »«
Ah ? » répondit-elle presque avec douceur. Sa récente colère avait disparu, du moins en apparence. Yéma ne percevait plus rien de ce qu'elle éprouvait. Il se leva, se pencha par-dessus le bastingage pour la regarder, et s'aperçut qu'il essayait de déchiffrer les émotions de la figure de proue d'après la position de ses épaules. Elle ne se retourna pas vers lui.
« Mieux vaut que nous restions séparés, »
dit-elle d'un ton sans réplique.
« Mais, »
fit Yéma en bégayant,
« je croyais qu'une vive nef avait besoin d'un compagnon, de quelqu'un de sa famille. Cela n'avait pas l'air de te préoccuper. » Quand tu t'es sauvé. Ne t'en inquiète pas plus aujourd'hui.
Je ne voulais pas te faire de mal, dit-il d'un ton hésitant.
Sa propre colère s'était évaporée. Peut-être n'était-elle en réalité que l'écho de celle de la vive nef.
Vivacia, je suis là, que je le veuille ou non. Dans ces conditions, il n'y a pas de raison pour que...
La raison... C'est que tu t'es toujours tenu à l'écart de moi. Tu viens de le reconnaître toi-même. En outre, il est peut-être temps que j'apprenne qui je suis sans toi.
Je ne comprends pas.
Oui, parce que quand j'essayais de te dire quelque chose d'important tout à l'heure, tu n'écoutais pas.
Elle ne paraissait pas vexée. Elle affichait même un calme étudié qui rappela soudain à Yéma Bérandol, quand son précepteur cherchait à lui faire toucher du doigt un point évident.
« Sans doute, »
reconnut-il humblement.
« Je t'écoute maintenant, si tu veux me parler. »« C'est trop tard, »
répondit-elle sèchement. Puis elle adoucit sa répartie.
« Je préfère ne pas t'en faire part tout de suite. Je vais d'abord tenter de m'y retrouver toute seule. » Il est peut-être temps que j'apprenne l'introspection, au lieu d'attendre les explications d'un vestrite.
Ce fut au tour de Yéma de se sentir abandonné et exclu.
Mais que vais-je faire ?
Elle se tourna vers lui, et c'est presque avec bonté qu'elle le regarda de ses yeux verts.
Un esclave pose ce genre de questions et attend qu'on lui réponde. Un prêtre trouve la réponse en lui-même.
Elle eut un demi-sourire.
À moins que tu ne saches plus qui tu es sans moi.
Et avant même qu'il pût ouvrir la bouche, elle lui présenta de nouveau son dos, la tête haute, les yeux braqués sur l'horizon. Elle s'était coupée de lui. Au bout d'un moment, il se leva péniblement, prit un seau que Clément avait apporté un peu plus tôt, et le fit descendre au bout d'un cordage le long du bord. La ligne lui scia les mains quand il le remonta plein. Puis, il s'empara du linge qu'il avait appliqué sur sa pommette et descendit dans les cales aux esclaves. Vivacia ne lui avait pas accordé le moindre coup d'œil.
« Je ne sais pas si j'y arriverai. »
songeait-elle effrayée.
Je ne sais pas comment être moi-même sans aide. Et si je devenais folle ?
le regard sur l'horizon, au-delà des îles et des écueils qui parsemaient le large chenal. Elle déploya ses sens pour goûter le vent et l'eau, et perçut aussitôt la présence de serpents. Non plus seulement le gros blanc qui la suivait dans son sillage, comme un chien obèse en laisse, mais d'autres aussi, qui la filaient à distance. Elle les chassa résolument de ses pensées, et regretta de ne pouvoir en faire autant de la détresse des esclaves et de l'incompréhension de l'équipage. Mais les humains étaient trop près d'elle, et ils étaient trop souvent en contact avec son bois sorcier. Malgré elle, elle sentait Yéma qui passait d'esclave en esclave, lavait visage et mains avec son linge humide et frais, donnait les maigres réconforts dont il était capable. À la fois prêtre et vestrite, se dit-elle. Et elle éprouva une étrange fierté, comme si le jeune garçon était une partie d'elle-même. Mais c'était fou. Et elle en prenait conscience un peu plus à chaque instant qui passait. Elle était pleine des humains et de leurs émotions, mais tout cela n'était pas elle-même. Elle s'efforça de les accepter, de les isoler dans un coin et de trouver sa propre identité, une identité séparée d'eux, mais elle n'y parvint pas, ou bien sa personnalité ne représentait pas grand-chose. Au bout d'un moment, elle redressa le menton et serra les mâchoires. « Si je ne suis rien de plus qu'un navire, je serai un navire fier et digne. » Elle repéra le courant principal du chenal et s'y dirigea. Grâce à d'infimes mouvements qu'elle-même percevait à peine, elle ajusta son vaigrage pour lisser sa coque, et elle perçut le plaisir soudain qu'éprouva Gantry à la barre à la sentir courir allègrement au vent. Elle pouvait lui faire confiance. Le visage caressé par la brise, elle ferma les yeux et s'ouvrit à ses propres rêves. « Qu'est-ce que j'espère de ma vie ?» leur demanda-t-elle.
« Tu as menti à mon capitaine !»
L'Ophélie avait la voix doucement rauque d'une courtisane, suave comme du miel sombre.
« Mon garçon !»
ajouta-t-elle avec retard. Elle jeta un coup d'œil en biais à Althea. À l'image de nombreuses autres figures de proue de son époque, elle avait été fixée au coltis du navire et non sous le beaupré. Le regard qu'elle adressa à Althea par-dessus son ample épaule nue était rédhibitoire. Répondre par un mensonge était hors de question. Mais Althea n'osa même pas ouvrir la bouche. Elle était assise en tailleur sur une petite passerelle, construite, lui avait-on dit, dans le seul but de faciliter les échanges entre Ophélie et ses visiteurs. Elle secoua le cornet entre ses deux mains. Il était disproportionné, tout comme les dés qu'ils contenaient, car ils appartenaient à l'Ophélie. En apprenant qu'il y avait un matelot supplémentaire à bord, la figure de proue avait aussitôt exigé qu'Althea passe une partie de ses quarts à la divertir. Elle adorait les jeux de hasard, surtout parce que, comme Althea le soupçonnait, il lui fournissait l'occasion de bavarder. La jeune fille la soupçonnait aussi de tricher de façon systématique, mais elle avait décidé de fermer les yeux. Ophélie tenait à jour, par un système de bâtons à encoche, les sommes que lui devait chaque membre de l'équipage, et certains bâtons portaient les encoches de nombreuses années. Celui d'Althea en possédait déjà une quantité respectable. Elle ouvrit le cornet, regarda à l'intérieur et se renfrogna.
« 3 mouettes, 2 poissons !»
annonça-t-elle en inclinant le récipient afin que la figure de proue en examine le contenu.
« Tu gagnes encore !»
« En effet !»
répondit Ophélie. Elle eut un sourire torve.
« On augmente les mises cette fois ?»«
Je te dois déjà davantage que je n'ai d'argent !»
répondit Althea.
« Précisément. Par conséquent, si on ne modifie pas les gages, je n'ai aucune chance de me faire payer. Que dirais-tu de jouer pour ton petit secret ?»«
Pourquoi prendre cette peine ? Tu le connais déjà, il me semble. »
En son fort intérieur, Althea forma le vœu qu'il ne s'agît que de son sexe.
Si là s'arrêtait ce que savait Ophélie et ce qu'elle risquait de révéler, la jeune fille restait relativement en sécurité. La violence n'était pas un phénomène inconnu sur une vive nef, mais il était rare. Les émotions dégagées étaient trop perturbantes pour le navire. D'ailleurs, la plupart des vives nefs réprouvaient la brutalité, bien qu'il se racontât que le taillis avait des tendances vicieuses et qu'il avait été jusqu'à exiger le fouet pour un matelot maladroit qui avait renversé de la peinture sur son pont. Mais l'Ophélie, malgré ses airs de harangère, était une grande dame qui avait bon cœur. Et Althea se savait à l'abri d'un viol à son bord, même si la cour rustique d'un marin cherchant à se montrer galant pouvait s'avérer tout aussi furieuse et source de contusion.
« Rappelle-toi Brachen, par exemple, » se dit-elle. Et elle regretta aussitôt cette pensée. En ce moment, dès qu'elle n'y prenait pas garde, il surgissait brusquement dans son esprit. Elle aurait peut-être dû le chercher à Chandelle pour lui faire ses adieux et mettre un point final à leur relation, car c'était sans doute ce qui la taraudait. En tout cas, elle n'aurait pas dû lui permettre d'avoir le dernier mot.
« Tu as raison. Je connais au moins une partie de ton secret. »
L'Ophélie eut un petit rire guttural. À sa propre demande, ses lèvres étaient peintes en rouge, ce qui accentuait la blancheur de ses dents quand elle riait. Baissant à la fois les cils et la voix, elle poursuivit.
« Et pour l'instant, je suis la seule à être informée. Tu n'aimerais pas que ça change, j'en suis sûre. »
« Mais ça ne changera pas, j'en suis sûr, »
répondit Althea d'un ton doucereux en secouant énergiquement le cornet.
« Une aussi grande dame que toi ne s'abaisserait pas à dévoiler le secret d'une autre. »«
Ah non !»
Ophélie eut un sourire en coin.
« Tu ne crois pas de mon devoir d'avertir mon capitaine qu'un de ces matelots n'est pas ce qu'il pense ?»
Le voyage risquait de devenir très inconfortable si Ténira décidait d'enfermer Althea jusqu'à l'arrivée.
« Eh bien, que proposes-tu ? » ?»«
3 manches. Chaque fois que j'en gagne une, j'ai le droit de te poser une question à laquelle tu dois répondre avec franchise. »«
Et si c'est moi qui gagne ?»«
Je garde ton secret pour moi. »
Althea secoua la tête. « Tes gages ne sont pas aussi élevés que les miens. »
Alors. Tu peux me poser une question?
Non, ce n'est pas encore suffisant.
Eh bien, que veux-tu dans ce cas?
Althea agita le cornet en réfléchissant. Malgré la saison, il faisait presque bon au soleil, résultat de la chaleur émise par les marécages littoraux qui longeaient à l'ouest. Toute cette zone côtière n'était qu'un méli-mélo de marées, d'îlots herbus et de bancs de sable qui se déplaçaient tout au long de l'année. Les eaux chaudes venues de la terre qui se mêlaient à celles de la mer avaient un effet destructeur sur les navires ordinaires, car les vers foreurs et autres animaux nuisibles y pullulaient, mais elles laissaient insensible la coque en bois sorcier de l'Ophélie, et le seul inconvénient que l'équipage voyait à ce passage était l'odeur de soufre que la brise apportait de temps en temps. Le vent soulevait les petites mèches de cheveux qui s'étaient échappées de la queue de cheval d'Althea et réveillait ses courbatures. Malgré son titre de matelot en surplus, elle avait largement de quoi s'occuper grâce aux bons soins de Ténira. Cependant, c'était un homme juste, et Ophélie un navire magnifique au tempérament agréable. Althea se rendit compte soudain qu'elle était heureuse depuis une semaine.
« Tu sais bien ce que je veux, » dit-elle à mi-voix, « mais je ne suis pas sûre que même toi puisses me le donner. »
« Tu penses très fort. » « On ne te l'a jamais dit ? Je crois que je t'apprécie 2 fois plus que tu ne m'apprécies, moi. »
La voix d'Ophélie était empreinte d'affection.
« Tu aimerais que je demande à Ténira de te garder à bord, n'est-ce pas ?»«
Pas seulement. J'aimerais qu'il connaisse mon identité et qu'il accepte quand même de me laisser travailler sous ses ordres. »«
Ouille !» fit Ophélie avec dérision. « Ça, c'est du gage !» « Naturellement, je ne pourrais rien promettre, sinon de faire mon possible. »
Elle cligna de l'œil.
« Secoue le cornet, petite !»
La vive nef gagna la première manche haut la main.
« Bon, eh bien, pose ta question, » murmura Althea.
« Pas tout de suite. Je tiens à savoir de combien de questions je dispose avant de commencer. »
Elle remporta les deux manches suivantes tout aussi rapidement. Althea ne parvenait pas à voir comment elle s'y prenait pour tricher, car ses vastes mains cachaient presque entièrement le cornet.
« Eh bien ?» ronronna la figure de proue en tendant la boîte à Althea pour lui montrer le dernier tirage. « J'ai trois questions. Voyons voir. »
Elle réfléchit un instant.
« Quel est ton vrai nom ?»
La jeune fille soupira.
« Althea Vestrit. »
Elle avait parlé très bas en sachant que le navire l'entendrait tout de même.
« Oh non !»
fit Ophélie dans un murmure d'indignation ravie. « Tu es une Vestrit, la fille du premier marchand qui s'est enfui en abandonnant sa propre vive-nef.
Mais comment as-tu pu, monstre sans cœur que tu es ? Te rends-tu compte de ce que tu as fait subir à la Vivacia ? Ce petit bout de bateau venait à peine de s'éveiller et tu le laisses pour ainsi dire seul face au vaste monde. Comment peut-on se montrer aussi égoïste et méchante ? Allons, raconte-moi vite, vite, ou je vais mourir d'impatience.
Je n'ai pas eu le choix.
Althea prit son souffle.
On m'a chassé du navire familial,
fit-elle tout bas. Et soudain, tout lui revint. La douleur de la disparition de son père, l'outrage de son déshéritement, sa haine de Kyle. Sans y penser, elle posa la paume sur la grande main compatissante qu'Ophélie lui tendait. Comme si des vannes s'ouvraient en elle, elle se sentit submergée de pensées et d'émotions jusque-là contenues, et sa respiration devint hachée. Elle avait oublié combien il lui manquait de partager simplement ses sentiments avec quelqu'un. Un torrent de paroles lui échappa. Et à mesure qu'elle évoquait le mal qu'on lui avait fait, l'expression d'Ophélie passa de l'attente fébrile à la pitié.
« Oh, mon enfant, ma chère enfant, quelle tragédie !»«
Mais pourquoi n'être pas venu nous voir ? Pourquoi avoir accepté qu'on vous sépare, Vivacia et toi ?»«
Venu voir qui ?»
demanda Althea égarée.
« Mais les Vivnef, pardi ! Quand tu t'es évanoui dans la nature et que Havre a pris le commandement de Vivacia, on ne parlait que de ça dans le port de Terrilville, et nous étions nombreuses à être bouleversées. Nous avions toujours supposé que c'était toi qui piloterais la Vivacia quand ton père aurait fait son temps. Elle aussi, elle était dans tous ses états, la pauvre. C'est à peine si nous arrivions à lui faire dire deux mots de suite. Et puis ce garçon, ce Yémin, est monté à son bord, et nous en avons été heureuses pour elle. Pourtant, elle ne paraissait toujours pas satisfaite. Et si tu m'affirmes qu'on l'a embarquée contre son gré, ça explique beaucoup de choses. Mais je ne vois toujours pas pourquoi tu n'es pas venu nous trouver.
Je n'y ai pas pensé, reconnut Althea. Pour moi, c'était une affaire purement familiale. D'ailleurs, je ne comprends pas. En quoi les autres Vivnef auraient-elles pu intervenir ?
Tu ne nous accordes guère de crédit, petite. Nous aurions pu intervenir de bien des façons. Mais notre menace suprême aurait été de refuser de naviguer. Tout autant que nous sommes, tant qu'on n'aurait pas donné à la Vivacia un compagnon volontaire, membre de sa famille.
Althea en resta pantoise. Au bout d'un moment, elle réussit à bredouiller.
« Vous auriez fait ça pour nous ?»«
Ma mignonne, ça aurait été pour nous toutes.
Tu es peut-être trop jeune pour t'en souvenir, mais autrefois, une Vivnef du nom de Parangon a été maltraitée de la même façon, et elle en est devenue folle. »
Ophélie ferma les yeux et secoua la tête.
« À l'époque, nous n'avons pas réagi, et à cause de notre inaction, l'une des nôtres a subi des dommages irréparables. Nul Vivnef n'entre dans le port de Terrilville, ni n'en sort sans voir Parangon, tiré hors de l'eau, enchaîné à terre, abandonné à sa folie. Les navires parlent entre eux. Althea, nous bavardons autant que les marins. Et il n'y a pas plus bavard qu'un marin. Nous avons conclu un pacte il y a longtemps. Si nous avions su, nous aurions parlé en ta faveur. Et si cela n'avait pas suffi, oui, nous aurions refusé de naviguer. Nous ne sommes guère nombreuses et nous ne pouvons nous permettre de laisser l'une d'entre nous à l'écart.
« J'ignorais tout ça, » murmura Althea.
« Et moi, j'ai peut-être eu la langue trop bien pendue.
Tu te rends compte que, si la nouvelle de l'existence d'un tel pacte venait à se répandre, elle risquerait d'être mal comprise? Nous ne sommes pas insoumises par nature, et nous ne déclencherions pas une telle rébellion sans nécessité, mais nous ne supporterions pas non plus de rester les bras croisés à regarder l'une des nôtres se faire maltraiter. »
L'accent traînant de la harangère avait quitté la voix d'Ophélie, et Althéa avait à présent l'impression d'entendre une matriarche de Terrilleville.
« Est-il trop tard pour demander votre aide ?»«
Ma foi, nous sommes loin de chez nous. Il va falloir du temps. Mais fais-moi confiance, je ferai passer le mot à toutes les vives nefs que nous croiserons. En attendant, n'essaie surtout pas de parler pour toi-même. Nous ne pouvons pas grand-chose tant que la Vivacia elle-même n'a pas regagné Terrilleville.
Ah, j'espère que je serai là. Je ne voudrais manquer ça pour rien au monde. L'une d'entre nous, et je souhaite ardemment être celle-là, lui demandera sa version de l'histoire. » Si elle se juge aussi lésée que toi, ce dont je ne doute pas, car je déchiffre tes émotions presque aussi facilement que celles d'un membre de ma famille, nous agirons. Il y a en permanence une ou deux vives nefs dans le port de Terrilleville. Nous parlerons à nos familles respectives, et à mesure que d'autres vives nefs arriveront, elles se joindront à nous pour demander aux leurs de parler aux Vestrites. L'idée, comprends-tu, est de faire pression sur nos familles afin qu'elles fassent pression à leur tour sur la tienne. L'ultime recours étant naturellement la grève de la navigation. C'est une position que nous n'aurons pas adoptée, je l'espère, mais qui reste envisageable si nous y sommes obligés. »
Althéa garda le silence un long moment.
« À quoi penses-tu ? » demanda enfin Ophélie. « Au fait que j'ai perdu la plus grande partie d'une année loin de mon bateau. J'ai beaucoup appris et je pense être meilleur marin qu'avant. Mais... je n'ai pas été témoin du prodige des premiers mois de sa vie, et cela, rien ne peut le compenser. Tu as raison, Ophélie. Je suis un monstre d'égoïsme, ou peut-être de bêtise et de lâcheté. Comment ai-je pu la laisser entre les griffes de Kyle ?
Tout le monde commet des erreurs, mon enfant,
répondit Ophélie avec douceur. Et j'aimerais que tout soit aussi facile à réparer. Ne t'inquiète pas. « Nous te rétablirons à ta place, sur ton bateau. Ne t'en fais pas. »«
Je ne sais comment te remercier. » C'était comme pouvoir respirer à nouveau, ou se redresser après avoir longtemps porté une lourde charge.
Jamais elle ne s'était doutée que les vives nefs pussent vivre dans une telle communauté de sentiments. Elle ne percevait que le lien exclusif qui l'unissait à Vivacia et n'avait jamais pensé qu'avec le temps, son navire pourrait nouer des amitiés avec ses semblables, que Vivacia et elle pouvaient avoir des alliés en dehors d'elle-même.
Ophélie gloussa et dit en reprenant son accent populaire
« Bon, eh bien tu dois encore répondre à une question. »
Althéa secoua la tête en souriant.
« Tu m'as posé bien plus de 3 questions. »
« Que nenni !» déclara Ophélie d'un ton hautain. « Je ne me rappelle t'avoir demandé que ton nom.
Et la suite, c'est toi qui me l'as raconté de ton propre chef. Tu as vidé ton sac toute seule, petite. » « Possible. Non, attends. Tu m'as demandé pourquoi je n'étais pas venu chercher de l'aide auprès des vives nefs. Je m'en souviens. »
« Ce n'était pas une question, mais un moyen d'entretenir la conversation. »
« Cependant, même si je t'accorde ce point, tu me dois encore une réponse. »
Se sentant d'humeur généreuse, Althéa dit
« Eh bien, vas-y, dans ce cas. »
Ophélie sourit, et une lueur malicieuse joua dans son regard. L'espace d'un instant, elle se mordilla le bout de la langue, puis elle demanda rapidement
« Qui est cet homme aux yeux sombres ?» qui te donne des rêves aussi stimulants.